Bonjour Franck Risser.
Bonjour Frédéric Rivière et bonne année.
Merci, tous mes voeux. On va parler dans un instant des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique qui était au cœur d'une conférence hier à Paris. Et je voudrais qu'on commence par le Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont pris dimanche une série de mesures économiques et diplomatiques sévères à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Est-ce que la France et l'Union européenne doivent aussi réduire leur échanges commerciaux avec le Mali au strict minimum?
Écoutez, nous avons pris acte de la décision de la CEDEAO que nous soutenons. L'affirmation par les dirigeants maliens du report des élections à 5 ans est totalement inacceptable. Et nous comprenons la décision des acteurs régionaux qui ont pris leurs responsabilités pour mettre en place un embargo hors denrées de première nécessité. Et donc nous saluons cette décision-là.
Mais est-ce que l'Europe et la France doivent suivre ce chemin aussi?
Écoutez, la décision de la CEDEAO, qui sont les acteurs régionaux avec qui nous travaillons en permanence, est évidemment une décision qui est la bonne, à notre avis.
Ouais. Le chef de la junte militaire a fait un discours hier soir dans lequel il accuse la CEDEAO d'être instrumentalisée par des puissances étrangères. Et ce matin, Djamil Bitar, porte-parole du M5-MFP, qui est un proche du Premier ministre et qui est l'invité Afrique des RFI, est encore plus explicite, lui, puisqu'il désigne clairement la France derrière ces mesures prises contre le Mali. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre?
Écoutez, je crois qu'il y a dans l'agenda d'ailleurs des gens qui appellent plus ou moins aussi au dialogue. Donc écoutez, il faut qu'on sorte de cette situation.
La France n'est pour rien dans les décisions de la CEDEAO.
Mais bien évidemment, les acteurs régionaux ont pris leurs décisions en responsabilité. C'est une technique classique qui est employée par un certain nombre de responsables pour instrumentaliser la France, pour agiter les peurs de certains. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. Nous travaillons en confiance avec les acteurs régionaux, mais qui ont pris leurs responsabilités, que nous soutenons.
Vous l'avez dit, il faudra faire attention aux produits de première nécessité pour que les populations ne soient pas victimes de ces mesures.
Bien sûr, c'est ça l'objectif. Et c'est tout à fait louable et nous sommes évidemment alignés sur ça.
Vous avez donc organisé hier cette conférence ministérielle sur les relations commerciales entre la France et l'Afrique. Vous avez tenu à souligner qu'il s'agissait du tout premier événement organisé par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'était une manière justement pour vous de donner un signal fort sur l'importance que vous attachez à ce dossier?
Oui, très clairement. La relation entre l'Union européenne et l'Afrique est au cœur des priorités du président de la République pour cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et dans le domaine qui est le mien, le domaine économique et le domaine commercial, c'est aussi une priorité. Ça sera au cœur de la grande réunion des ministres du commerce à Marseille mi-février pour parler des enjeux commerciaux de l'Europe. Et c'était en organisant cette conférence sur les relations commerciales et d'investissement entre l'Union européenne et l'Afrique comme première conférence organisée par la présidence française, un symbole très fort, pour dire très clairement que l'enjeu de la relation à l'Afrique est absolument clé pour l'avenir de l'Europe. C'est un des grands enjeux du monde et un des grands enjeux de l'Europe, étant donné la proximité qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, étant donné les liens tout particuliers qu'il y a, culturels, historiques, fraternels parfois, entre l'Europe et l'Afrique, avec la force des diasporas, tant en Afrique qu'en France, africaine, nous avons besoin de renforcer et renouveler les relations économiques et commerciales avec l'Afrique. Ça passe par l'accompagnement de la mise en place de cette zone de libre-échange continentale auquel nous croyons beaucoup et nous voulons pouvoir contribuer à aider la mise en place et opérationnelle de cette zone de libre-échange, renforcer les échanges en peut-être modernisant adaptant les accords régionaux commerciaux entre certains pays de la zone et l'Union européenne, pour faire en sorte aussi que ce commerce soit plus durable, plus responsable, que par exemple il y ait davantage de chaînes de valeur partagées qui se mettent en place entre l'Europe et l'Afrique. Je vous donne un exemple.
Qu'est-ce que c'est une chaîne de valeur?
Une chaîne de valeur, c'est tout ce qui permet, tout ce qui est le lien entre le produit de base et le produit fini. Comment on passe de la fève de cacao jusqu'à la barre chocolatée que l'on mange à la cantine. Eh bien, ces chaînes de valeur aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment, pour certaines, en Afrique, Je pense par exemple au cacao. On voit que par exemple beaucoup de fêtes
vous
de cacao.
Vous aviez parlé en octobre dernier d'ailleurs d'un accord sur le cacao.
Oui, mais c'est important parce que c'est un exemple très concret. Des fêtes de cacao qui sont produites en Afrique et qui ensuite sont transformées pour de faire du chocolat ou pour faire des barres chocolatées ou pour faire du chocolat pour le petit déjeuner hors d'Afrique. Et ben, l'idée, c'est de travailler avec les partenaires africains pour que cette chaîne de valeur, cette production, cette transformation de la fève de cacao se fasse davantage en Afrique. Et puis deuxièmement, vous savez que l'Europe est en pleine reconfiguration de ces chaînes de valeur sur tous les produits. Redéfinit une nouvelle autonomie stratégique. On a vu avec la crise Covid que nous étions dépendants de production ou d'approvisionnement de l'autre côté de la planète, notamment en Asie. Pourquoi ne pas rapprocher nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes de valeur de l'Europe en travaillant mieux avec nos partenaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne.
Ouais.
Parce que ça nous permettra d'être plus résilients, de tenir quand il y a une crise, de pouvoir s'assurer que l'approvisionnement est bien maintenu quand il y a une crise.
Vous avez souligné hier l'impératif de transition écologique de nos économies des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce que vous êtes sûr que cet objectif est considéré comme une urgence de même nature par les dirigeants africains et européens ?
Non, mais d'abord, il faut que les choses soient claires. Le réchauffement climatique, il est d'abord lié aux économies occidentales.
Voilà.
Ça, très clairement. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a un développement, faisons en sorte de travailler intelligemment ensemble. Est-ce que ce développement soit un développement responsable, durable, en prenant en compte, bien évidemment, la situation propre à l'Afrique, dans sa diversité, parce qu'il y a évidemment des diversités en Afrique, que nous puissions bâtir avec l'Afrique, partenariats qui permettent en matière d'énergie, en matière de villes durables. Les villes africaines, les grandes villes africaines doublent de taille tous les 10 ans. Il y a des enjeux considérables en matière d'eau, d'assainissement, d'énergie, de construction. Eh bien, travaillons avec nos amis africains, en lien avec nos entreprises aussi, qui ont une expertise européenne, une expertise française, mais une expertise européenne en matière de villes durables, pour faire en sorte que cette croissance nécessaire en Afrique soit une croissance durable, responsable, responsable des populations, durable et responsable, qui permette de respecter les populations, respecter le climat, respecter la biodiversité.
Un petit mot sur le projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, qui arrive aujourd'hui en examen au Sénat, où la droite est majoritaire. Les sénateurs vont soutenir le texte, mais veulent y apporter un certain nombre de changements, notamment un mécanisme d'extinction automatique de ce pass vaccinal, qui ferait qu'il ne pourrait être imposé que lorsque le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 serait supérieur à 10 000 patients. Donc il s'éteindrait automatiquement en deçà de ce seuil. Est-ce que le gouvernement serait prêt à ce genre d'aménagement ?
Écoutez, moi je ne vais pas présager les discussions entre le gouvernement et notamment le ministre de la Santé et le Sénat. Ce qui est évident, c'est que le pass sanitaire, il a vocation à rester actif quand la pandémie est là. On ne va pas continuer à avoir un pass sanitaire si la pandémie n'est plus là. C'est assez logique. Maintenant, s'il y a des moyens de trouver une solution pour rassurer tout le monde que le pass sanitaire n'est pas quelque chose qui va durer ad vitam aeternam, pourquoi pas ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut être à la hauteur de la responsabilité. Ce pass vaccinal, il est absolument clé pour lutter contre la pandémie, pour inciter, forcer ceux qui ne sont pas vaccinés à l'être, parce que quand on est vacciné, on a moins de chances de contaminer les autres, on a moins de chances d'être contaminé, et quand on est contaminé, on a moins de chances de faire une forme grave, et donc de venir emboliser les hôpitaux. C'est tout l'objet de ce pass vaccinal.
Merci Franck Riester, bonne
Merci
journée.
À vous.